Je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc. Premièrement, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46, Ésaïe 46, nous ferons deux lectures, et après quoi, on va pouvoir méditer sur des choses particulières. Ésaïe, chapitre 46, verset 9. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. C'est qui parle ? C'est Dieu, il dit « je suis Dieu ». Donc on ne peut pas douter, c'est « je suis Dieu », c'est Dieu qui parle. Il dit « il n'y a point d'autre Dieu que moi. Nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qu'il doit arriver et longtemps avant ce qui n'est pas encore accompli, je dis « mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté ». C'est là la parole de Dieu. Et on doit être sûr que ce que Dieu dit, ça arrive quelquefois. C'est pas ça, hein. Ouf, ça va, vous me suivez. Ce que Dieu dit, ça arrive toujours. Et il le dit, c'est pas moi qui le dis, il dit « j'exécuterai toute ma volonté ». Toute sa volonté s'exécutera. Prenez encore 2 Pierre, chapitre 1er et verset 19. Le verset 19 au verset 21. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. 2 Pierre, c'est vers la fin de la Bible. Seconde épître de Pierre. Chapitre 1er, verset 19. Il est écrit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et là, il est parlé particulièrement dans le contexte du retour du Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Et il est dit, vous faites bien de prêter attention à cette prophétie, parce que c'est une prophétie sûre qui va arriver. Cet après-midi, je ne voudrais pas forcément qu'on passe ce moment dans la tradition, hein, un peu comme ça se passe d'habitude, un orateur qui parle et simplement je vous parle et vous recevez. Je voudrais vraiment faire un peu comme un exposé cet après-midi. Parler justement des prophéties bibliques. Vous savez que dans notre temps, dans notre ère actuelle, dans notre siècle, beaucoup de personnes cherchent à connaître l'avenir. C'est pas vrai ? Qui n'aimerait pas savoir l'avenir ? Tiens, moi j'aimerais pas, parce que on sait jamais, vous savez. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont voir toutes sortes d'astrologues, de voyants, etc. On veut connaître l'avenir, vous savez, on veut connaître l'avenir, on veut être rassuré, parce que les gens, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Moi non plus, je ne sais pas de quoi demain sera fait. En partie, bien sûr, j'ai les prophéties de la parole de Dieu en qui je crois qui vont arriver, mais qu'est-ce que je vais faire demain ? Tiens, est-ce que je vais vraiment faire ce que je crois vouloir faire et pouvoir faire ? Je ne sais pas, il peut arriver toutes sortes de choses, un rendez-vous, quelque chose que je n'avais pas prévu, et voilà. Et les gens ont peur de l'avenir. Beaucoup de personnes ont peur de l'avenir. Ils se demandent, est-ce que je vais rester avec mon conjoint ? Est-ce qu'il va me tromper ? Est-ce qu'on va divorcer ? Est-ce que je vais avoir des enfants ? Est-ce que je vais perdre mon boulot ? Est-ce que je vais avoir un travail ? Etc, etc. Toutes sortes de questions, et les gens se tournent vers toutes sortes de personnes pour avoir des réponses à leurs questions. Et il est fou de voir le nombre de personnes de nos jours qui courent après les devins, les astrologues, toutes sortes de choses, les numérologues, etc., etc. Peu de gens savent à quel point les prophéties bibliques sont exactes et précises. Très peu de personnes le savent. Et j'aimerais simplement prendre quatre circonstances, quatre choses pour montrer à quel point les prophéties bibliques sont précises. Et à quel point on peut s'appuyer sur elle. Premièrement, j'aimerais parler d'une ville, une ville qui s'appelle Babylone. Qui a déjà entendu ce nom ? Peut-être quelqu'un a entendu parler d'une tour, qu'on appelle la tour de Babel. Ça vous entend ? Vous connaissez mieux, ça y est, ça vient. Tour de Babel. Il y a, dans l'histoire, une ville qui a été construite, il y a de cela tellement longtemps qu'on ne sait pas quand elle a commencé. C'est la ville de Babylone. Jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ, à peu près 2000 ans avant, elle était complètement discrète, inconnue, etc. Mais il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a bientôt un peu plus de 4000 ans, on va dire, à peu près 4000 ans, elle a commencé à grandir car elle est devenue la capitale d'un des plus grands royaumes, et à l'époque le plus grand royaume de toute la terre. Et Babylone a commencé à prendre de l'ampleur et elle a été connue pour toutes ces choses extraordinaires. Par exemple, la tour de Babel qu'on a voulu construire, dont la parole de Dieu nous parle. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été faites. Et entre autres, j'ai pris quelques photos. Alors, on va voir les photos. Si quelqu'un veut éteindre la lumière au fond, pendant que je vais parler, il y a quelques photos. Alors, ceux qui sont à ma gauche, si vous voulez vous décaler pour voir, vous mettre au milieu, ce sera plus sympa pour vous. N'hésitez pas, on ne vous regarde pas. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Babylone de cette manière-là ? Vous voyez ? Si vous ne me voyez pas, ça, c'est pas grave. Mais vous voyez les jardins ? C'est une petite reconstitution, c'est pas une vraie photo, bien sûr, c'est ni même des choses exactes. Ça a été fait d'après des plans qui ont été retrouvés. Mais il existe, sur Babylone, il existait ce qu'on appelle les jardins, comment on dit, suspendus, c'est ça ? C'était considéré à l'époque comme la 7e merveille du monde. C'est quelque chose d'incroyable. Cette ville était bâtie, elle avait une ampleur, elle avait une taille, elle avait une influence sur le monde à l'époque exceptionnelle. Et ça a fait que grandir jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait que s'accentuer. Elle avait dedans, il y avait toutes sortes de richesses. Les gens apportaient leurs richesses. Le plus grand roi avait sa capitale à Babylone, etc. Les plus grands rois ont été là, et c'était une ville incroyable. Elle peut être comparée aux plus grandes villes actuelles. Et il y avait un marché pas possible qui se passait dans cette ville. Il y avait toutes sortes de choses. Il y avait de l'idolâtrie aussi, puisque on peut en parler. Il y avait toutes sortes de choses. Et c'était une ville qui a vu une apogée incroyable jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait que monter. Babylone se dit Babel en araméen. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est lié à l'histoire de Babel. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, elle a été à son apogée à cause d'un roi. Qui peut me dire quel roi dont la Bible parle ? Le roi de Babylone, Nabucodonosor. Selon la parole de Dieu, dans certaines traductions, Nabucanézar. Qui se souvient de Nabucanézar ? Et qui a vécu du temps de Nabucanézar ? Daniel, on va s'arrêter là. Il y a au moins Daniel, vous connaissez l'histoire de Daniel, ce jeune qui a été emporté comme esclave pour servir le roi Nebuchadnezzar et qui a été complètement emmené et qui a été, il a eu cette formation pendant 3 ans pour apprendre la langue, pour oublier son pays et toutes sortes de choses qui ont été faites, mais lui, il a tenu bon. Et il est quand même devenu, puisqu'il a cherché à être approuvé de Dieu, la première personne après le roi dans tout le royaume de Babylone. Daniel a vécu à cette époque. Daniel a vu ces choses. Et cette ville était connue pour sa maçonnerie, l'architecture, la mathématique, toutes ces choses-là. Même l'astrologie. L'astronomie. L'astrologie, c'est autre chose. L'astronomie, c'est-à-dire l'étude des étoiles. Vous savez la différence entre l'astronomie et l'astrologie ? Astronomie, c'est l'étude des étoiles scientifiques. Astrologie, c'est tout ce qui est superstition occulte. Je discerne l'avenir en regardant les étoiles. C'est un peu ça. Je ne parle pas de l'astrologie, mais elle était reconnue pour son astronomie. Et il y avait toutes sortes de sages, des gens qui étudiaient. C'était comme une mégapole et les gens venaient tous là. Et il y avait les plus grands savants du monde entier qui étaient dans cette ville. Elle a connu une apogée extraordinaire. Et la parole de Dieu, la Bible, va parler sur Babylone. Dieu va parler sur Babylone au travers des prophètes. Je remonte juste avant, tu as mis la deuxième photo, c'est bon. Ésaïe est un prophète qui est né en 740 avant Jésus-Christ et qui est mort en 681. Jérémie, lui, est un prophète né en 650 avant Jésus-Christ et mort en 580 à peu près. J'ai pas l'heure exacte et le jour exact, mais à peu près avant Jésus-Christ en Égypte. Tous deux ont été inspirés par le Saint-Esprit et ils ont prophétisé concernant le sort de Babylone. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand, roi des Perses et des Mèdes, s'empare de toute la Mésopotamie, y compris de la prestigieuse Babylone, réduite désormais à n'être plus qu'une ville provinciale. il délivre au passage les Hébreux. Il y a Nebuchadnezzar, Dieu prononce une malédiction, personne ne pouvait imaginer ce qui allait arriver, personne ne pouvait soupçonner ce qui allait arriver à Babylone, c'était impossible, elle était fortifiée, elle était protégée. Pourtant, la parole de Dieu parle, et juste après, un homme qui s'appelle Cyrus le Grand, c'est l'histoire, vous pouvez l'étudier, c'est pas que la Bible qui dit ça, mais Cyrus le Grand vient et il remporte la victoire sur toute la Mésopotamie et entre autres sur Babylone. Et il va faire en sorte que Babylone ne soit plus la grande capitale du monde et elle va devenir une simple province. C'est vers le 6e siècle avant Jésus-Christ et son déclin va commencer. Et quelque chose d'incroyable, d'impensable, c'est comme si aujourd'hui je vous parlais de New York et je vous dis, un jour, il n'y aura plus personne à New York. Ce sera, regardez les prophéties, Jérémie, chapitre 51, verset 37, je vous le lis. « Babylone sera un monceau de ruines. » Tu peux afficher l'image. « Babylone sera un monceau de ruines, un repaire de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. » Et comme on peut observer sur cette photo, Babylone est devenue aujourd'hui un gros tas de ruines. C'est comme si aujourd'hui, je vous disais, dans peu de temps ou dans quelques siècles, on va dire, New York, je ne sais pas quelle ville, la ville la plus peuplée du monde, je ne sais pas c'est laquelle, mais je vous dis par exemple, cette ville-là, elle va être complètement désertée. Plus personne va être dedans, on ne passera plus par cette ville, elle sera complètement déserte, en ruine, et personne ne la reconstruira. Quelque chose d'incroyable. C'est ce qui est dit là. Et aujourd'hui, voilà l'état des ruines de Babylone. Et Babylone n'existe pas. Vous avez entendu parler de Ninive ? Et du gros poisson qui avala Jonas. Vous vous souvenez de cette affaire? Ninive a été reconstruite ailleurs. Ça a été déplacé. Elle a été déplacée, je ne sais plus à combien de kilomètres, un peu plus au nord. Ninive a été reconstruite, tandis que Babylone n'a jamais été reconstruite. Ésaïe 13, verset 20, il est dit « Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée, l'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. » Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'aucun bédouin, aucun arabe ne plante sa tente dans ces endroits-là parce qu'il y a une superstition qui dure depuis des millénaires et cette superstition, elle dit qu'il y a des mauvais esprits la nuit. Donc il n'y a aucun arabe qui s'aventure, il y a des génies la nuit, aucun arabe ne s'aventure à dormir là-bas à cause d'une fausse croyance. Mais la prophétie biblique s'accomplit. Les habitants aussi ne mettent pas leurs brebis dans ces ruines, vous savez pourquoi ? Il y a tellement de scorpions, de serpents et de bêtes sauvages et des chacals que les brebis se font manger et ne peuvent pas durer. Donc depuis des millénaires, même, pourtant c'est 1000 hectares, même les bergers ne peuvent pas y mettre leurs brebis, parquer leurs bêtes pour qu'elles puissent y rester. Et dernièrement, il y a quelques dizaines d'années, un historien a voulu visiter les ruines de Babylone, y aller, etc. Et il a demandé à dormir sur place pour étudier longtemps les choses. Et les bédouins, ils ont dit, mais non, on ne peut pas. Il y a des mauvais esprits, on ne peut pas y dormir ici, il ne faut pas y dormir. Vous voulez y dormir, dormez-y vous. Et comme il était tout seul, il n'a pas pu y aller. Un archéologue, des historiens, tout ça. Et pareil, ils ont dit, mais on ne peut pas amener nos parquer nos bêtes, il y a trop de mauvaises bêtes qui sont là, des serpents, des scorpions, etc. Et nos bêtes mourraient. Dans Jérémie, chapitre 51, verset 42, il est écrit, « La mer est montée sur Babylone, Babylone a été couverte par la multitude de ses flots, ses villes sont ravagées, la terre est aride et déserte, c'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. » Et beaucoup de personnes se sont moquées de la Bible en disant, attends, dans le même verset, il est dit que Babylone, elle est inondée, et à côté, elle est dit qu'elle est déserte et qu'elle est complètement sèche. Et ils se sont moqués. Seulement, quand on va sur les ruines de Babylone, on remarque que 2 mois par an, il y a l'Euphrate qui est en crue, et Babylone, les ruines de Babylone sont complètement inondées. Et tous les ans, 2 mois par an, on ne peut pas aller dans les ruines de Babylone parce que c'est un marais pas possible. Et 2 mois par an, c'est inondé. 10 mois par an, c'est la sécheresse totale. Et le verset qui est dit, il s'accomplit à la lettre. Faut le faire quand même, fallait y penser. Incroyable, mais vrai. Qui ose reconstruire Babylone ? 2 personnes célèbres ont voulu reconstruire la ville de Babylone, redonner en tout cas de l'élan à Babylone. Alexandre le Grand, qui en a entendu parler ? Lui, là. Vous le connaissez ? Alexandre le Grand. C'est un homme, un conquérant, un homme qui a vraiment fait la, la guerre autour de lui, qui a voulu remporter des victoires, qui a voulu faire toutes sortes de conquêtes, il a voulu étendre son empire, il avait des projets de fou. D'ailleurs, les gens ne le comprenaient pas, on a essayé de le tuer plusieurs fois tellement on le prenait pour un fou. Et lui, il a été obsédé littéralement par la conquête du monde entier. Il voulait étendre son empire au monde entier, il voulait comprendre aussi les ethnies qu'il rencontrait, les Indiens, toutes les personnes qu'il rencontrait, il voulait comprendre, et il allait y conquérir, et lui-même, il allait à la guerre. C'est rare de voir un roi qui va tout le temps lui-même à la guerre. Et lui, il y allait au point de plusieurs fois être blessé et failli mourir. Alexandre le Grand, un jour, a donné 600 000 rations à des personnes, à des hommes, pour reconstruire la ville qui avait commencé à être détruite. C'était vers 333 avant Jésus-Christ. Le déclin avait commencé. Et alors qu'il donne toutes ses rations, il donne ses ordres à tout le monde, etc., il dit « Je veux faire de Babylone la capitale de mon royaume. » Seulement, Dieu avait dit « Elle ne sera plus peuplée. » Ah, qui c'est qui a raison? C'est Dieu ou c'est Alexandre? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Alexandre quelques jours après? Il est mort. Foudroyé. Et on ne sait pas s'il était empoisonné, on ne sait pas s'il est tombé malade. Après tout, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs récits qui ont été retrouvés pas bibliques et qui se contredisent. Mais en tout cas, Alexandre est mort, et puisqu'il n'a pas donné ses ordres avant de mourir, eh bien, son royaume a été divisé, et la volonté de faire de Babylone une ville qui soit sa capitale a été abandonnée, et le déclin de Babylone a constitué jusqu'à à peu près 300 après Jésus-Christ. Et elle est devenue de moins en moins peuplée. De moins en moins peuplée, les bâtiments non entretenus sont devenus des ruines, et jusqu'à 300 après Jésus-Christ, elle a été complètement désertée, et elle est devenue cette ruine. Il n'y a pas eu de guerre pour que ça s'arrête. Elle s'est arrêtée d'elle-même, vous imaginez? C'est comme si je vous dis, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, mais ça s'arrête. Juste parce que Dieu a parlé. Et la deuxième personne célèbre qui a voulu rebâtir Babylone, c'est qui lui? Saddam Hussein. Saddam Hussein, en 2003, a donné des ordres à toutes ses troupes. Il a dit « Je veux reconstruire Babylone. Vous allez reconstruire les ruines qui avaient commencé à être découvertes, mises à jour par des fouilles à partir de 1890 jusqu'en 1975 avec un stop entre les deux guerres. » Et Saddam Hussein a commencé à dire en 2003 « Je veux vraiment qu'on reconstruise les ruines. Il faut qu'il y ait une mémoire, il faut qu'il y ait tout ça. Et vous allez reconstruire. » Et il s'est même fait un temple, il s'est fait faire un temple. Il a fait construire trois collines artificielles pour éviter les montées de marée. Il s'est fait faire un temple au-dessus, un palais à lui au-dessus, avec des salles de fête, toutes sortes de choses. Et il voulait reconstruire Babylone. C'était son défi pour montrer que la Bible disait faux. Et vous savez pas qui c'est qui est arrivé pour arrêter tout ça? Les Américains. Les Américains sont allés sur les ruines qui avaient... Tu peux montrer la photo suivante. Ça, c'est une partie des ruines qui avaient commencé à être reconstruites. Et on voit toutes les personnes qui arrivent derrière. Et sur ces ruines qui avaient commencé à être rebâties, eh bien, les Américains ont fait leur base qu'on appelle la base Alpha. Ça ne vous dit rien, moi non plus. Je l'ai appris, j'ai dû chercher. La base Alpha, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur base sur toute une partie des ruines qui avaient recommencé à être construites. Et vous savez ce que ça fait, des Américains dans une base? Ça s'entraîne, et ça tire partout, et ça fait passer des chars, et etc., etc. Et pendant les fouilles qui ont été faites jusqu'en 1975, des routes pavées, magnifiques, des choses avaient été mises à nu, et puisque les entretiens et la restauration s'est arrêtée, que les chars sont passés dessus, que les entraînements ont eu lieu, eh bien les ruines sont pires qu'avant qu'elles ont été déterrées. Et je ne crois pas que ça va se refaire d'ici demain, puisque Dieu a dit qu'elle ne sera plus jamais peuplée. Quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. On l'a lu, Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commandement ce qui doit arriver, et longtemps d'avant ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Et en 2006, les Américains sont arrivés, et les travaux de reconstruction ont dû s'arrêter. Peut-être des personnes étaient là hier soir à la jeunesse, je m'excuse parce que je reprends ça. Je pensais que c'était intéressant de le voir tous ensemble. Deuxième cas, le premier c'était Babylone, le deuxième, je voudrais parler de la ville de Tyr. Qui a entendu parler de la ville de Tyr? Dans quel livre on parle le plus de la ville de Tyr? Ézéchiel. C'est dans le livre d'Ézéchiel. On va prendre ensemble Ézéchiel chapitre 26. À l'époque où ce texte va être écrit, la ville a 1500 ans, la ville de Tyr. Elle a 1500 ans. Et Ézéchiel, alors qu'elle est là depuis 1500 ans, va dire quelque chose sur elle. Regardez, chapitre 26, à partir du verset 1er. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, haha, c'est-à-dire elle s'est moquée, elle est brisée, la porte des peuples, on se tourne vers moi, je me remplirai. Tyr était contente parce que Jérusalem commençait à être détruite et elle a dit je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots, c'est-à-dire vague par vague, période par période, roi et bataille par bataille. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle, retenez bien ça, je ferai de Tyr un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, elle sera la proie des nations. Verset 7. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'amène du septentrion contre Tyr Nebuchadnezzar, le fameux roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses et il dressera contre toi des boucliers. Il dirigera des coups de son bélier contre tes murs, etc. Verset 12. On enlèvera tes richesses. On pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je relis. On renversera tes maisons de plaisance, on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je referai de toi un rocher nu. Tu seras un lieu où l'on entendra les filets, où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti. « Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. » Verset 21, « Je te réduirai au néant, et tu ne seras plus, on te cherchera, et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur, l'Éternel. » Si vous avez fait un petit tour là-bas, vous pouvez savoir qu'il y a une ville aujourd'hui qui est appelée Tyr. Tyr, il y a une nouvelle ville qui est appelée Tyr. Tu peux mettre la première photo. Ça, c'est la nouvelle Tyr, c'est la deuxième Tyr qui a été faite. Tu peux mettre la première, pardon. Voilà, ça. À droite, là où il est marqué Old Tyr, c'est-à-dire l'ancienne Tyr, c'est la Tyr dont parle Ézéchiel, la première. Tyr était là et c'était une ville portuaire. C'était le plus grand port du monde. C'était là où il y avait le plus de trajets, de passages de bateaux, là où il y avait le plus d'échanges de marchandises. C'était le port mondial à l'époque d'Ézéchiel. C'était un fait, c'était comme cela. Cette ville était fortifiée sur tout son littoral. Tout son littoral était fortifié au point que pendant 1500 ans, personne n'avait réussi à assiéger l'ancienne Tyr. Et Ézéchiel, je ne sais plus à quelle date, est-ce que je l'ai noté ? Je ne peux plus, voilà. Ézéchiel, vers 586 avant Jésus-Christ, il va dire, Nebuchadnezzar, que tu connais puisqu'il existait déjà à cette époque, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, va venir et il va t'assiéger. Et il va te détruire. Il va venir avec toute son armée et va remporter la victoire. Et puis, il va venir, il est dit qu'il viendra comme des flots, c'est-à-dire par vagues. Tu vas être détruite par vagues. Et il va y avoir quelqu'un d'autre qui va venir aussi, et il va complètement faire de toi un rocher nu. Tes pierres, ton bois, tout ce que tu as, toutes les ruines de ta ville vont être jetées à la mer. C'est exactement l'image qu'il y a là. J'ai ici les dates approximatives de ce qui s'est réellement passé. Il faut que je retrouve, voilà, l'ordre. Il y a 7 prophéties dans ce qu'on a lu. La première, c'est que de nombreuses nations monteront contre Tyr comme des flots. La deuxième, c'est que la ville sera détruite et complètement rasée. La troisième, c'est que Nebuchadnezzar attaquera Tyr, ce qui s'est passé. La quatrième, c'est qu'il détruira la ville. La cinquième, c'est que la ville entière sera rasée et jetée à la mer. La sixième, c'est que le site deviendra un rocher nu où les pêcheurs étendront leurs filets pour les faire sécher et que Tyr ne sera jamais reconstruit. La septième, on ne retrouvera jamais la ville. 7 prophéties, ça fait court dans un texte. Pourquoi la Bible est exceptionnelle ? parce qu'il n'y a aucun livre au monde, tout livre confondu, religieux ou pas, qui n'a autant de prophéties et qui en a autant qui se sont accomplies, avec autant de précision. Le détail. Nebuchadnezzar a détruit la ville, ça s'est passé, après l'avoir assiégée pendant 13 ans, à peu près de 585 avant Jésus-Christ à 573 avant Jésus-Christ. Elle a été reconstruite sur une île, 800 mètres plus loin. Vous voyez ? Elle était là, Nebuchadnezzar est vraiment venu la détruire, et elle a été déportée, elle a été reconstruite sur l'île, et ils ont refait des fortifications. Au cours de sa campagne d'Asie, Alexandre le Grand, parce qu'il faut que la suite s'accomplisse, Alexandre le Grand, on en a parlé juste avant, il a dit « Moi, je veux conquérir Tyr ». Il est déjà arrivé à Babylone, il dit « Je veux conquérir Tyr ». Je veux assiéger Tyr parce qu'il voulait avoir la suprématie sur toute la zone d'habitation. Il dit « Je veux aller sur Tyr, je veux conquérir Tyr, mais la nouvelle Tyr, puisque c'est trois ou quatre siècles plus tard ». Il dit « Je veux conquérir Tyr ». Il y avait encore les ruines de l'ancienne Tyr. Pourtant, il est dit que l'ancienne Tyr sera un rocher nu. Et pour que la parole de Dieu s'accomplisse, Alexandre le Grand a eu un moment une folie. Il a dit à tous ses soldats, à tous ses hommes, malgré le feu des bateaux de Tyr qui venaient l'assiéger sur l'ancienne Tyr, il a dit « Vous allez prendre toutes les ruines de la ville, les pierres, les bois, les roues, la poussière, vous allez tout jeter dans la mer pour faire une digue jusqu'à la nouvelle. Comme ça, on va l'assiéger, non pas par bateau, mais on va l'assiéger à pieds nus et on va pouvoir y aller. » Et il y a un historien, c'est Flavius Joseph, un historien qui dit que ça a été incroyable. Il a pris, je ne sais plus si c'est lui ou un autre, pardon. Il raconte comment ça s'est passé. Alexandre, pris de folie, a dit « Moi, je veux cette ville ». Il était en colère parce qu'elle a refusé de le laisser venir. Et il dit « Vous allez prendre toutes les ruines ». Et les gens, il les a forcés au point que beaucoup sont morts dans cette affaire. Il a dit « Vous allez assiéger Tyr, l'île, et vous allez jeter toutes les ruines que vous trouvez sur le bord ». Et ils ont jeté la ville entière dans l'eau pour faire une digue de 700 ou 800 mètres pour aller arriver à la nouvelle Tyr. Le résultat, ça a été qu'à la fin, il n'y avait plus de pierre, il n'y avait plus de bois, il n'y avait plus de roues de charrette, comme il le décrivait. Il n'y avait plus tout ça. Alexandre est venu, il a dit, j'en ai rien à faire que vous n'y arrivez pas. Vous allez racler la poussière de sol et vous allez la jeter pour pouvoir faire une route suffisamment plate pour que les béliers, les engins de siège puissent traverser et aller jusqu'à la nouvelle Tyr. Tout ça, sous le feu de l'ennemi, sous les flèches, sous tout ce qu'il y avait et les bateaux qui venaient autour pour empêcher Alexandre de venir et son armée. Et Alexandre a fait racler le rocher et toute la terre de l'ancienne Tyr pour qu'elle soit jetée dans la mer pour assiéger la nouvelle. C'est exactement ce qu'on vient de lire dans Ézéchiel. Elle sera comme un rocher nu, on jettera à la mer tes pierres, ton bois, etc. Vous y aurez pensé, vous, à envoyer un Alexandre le Grand pris de folie, qui se mettent à vouloir faire ce que Dieu avait dit des siècles auparavant. J'aurais pas pensé, 400 ans auparavant. Est-ce qu'il avait lu Ézéchiel, Alexandre le Grand? Je pense pas. Mais en tout cas, même s'il l'avait lu, je pense pas qu'il ait pensé à ça au moment où il a fait ça. Et c'est l'une des plus grandes histoires qui confond encore tous ceux qui sont contradicteurs de la parole de Dieu. Je vais avancer. Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, il y a plusieurs prophéties. Jérusalem fait partie des villes les plus anciennes du monde. C'est une des villes les plus anciennes. Et quelques jours avant que Jésus soit crucifié, il y a les disciples, vous vous souvenez, qui disent à Jésus « Oh, quelle belle pierre !» dans Marc chapitre 13, verset 1. Tu vois le temple, il était en train d'être reconstruit. Il dit « Oh, quelle belle pierre! Tu as vu les grandes pierres ?» Parce que les pierres qui ont permis de reconstruire le temple qui est au milieu, c'était des pierres qui faisaient entre 2 et 4 mètres de longueur, large de plusieurs mètres aussi et épaisse de plusieurs mètres aussi. Et puis, c'était des pierres tellement immenses que ça impressionnait tout le monde. Et les disciples ont dit, tu as vu quand même le temple de Dieu? Chouette, hein? Super, c'est énorme. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu ça. Il a dit, vois-tu ces grandes constructions? Il va dire un truc quand même que personne n'aurait pu penser. Il ne restera pas pierre sur pierre. Il n'a pas dit, bon, ça va juste être détruit, il y aura un trou quelque part dans les murs. Non, il dit, il n'y aura pas une pierre qui restera sur une autre pierre qui ne soit renversée. Lorsque vous verrez Jérusalem, une deuxième prophétie que Jésus donne, investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront du milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. On croit que c'est pour le futur, mais c'est déjà arrivé ça. Parce que 40 ans après ce que Jésus ait dit ça, il y a eu la destruction du temple de Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ, 40 ans après sa mort, à peu près. Il y a eu une révolte juive entre 67 et 70 après Jésus-Christ par les personnes qu'on appelle les zélotes. Il y avait un des disciples qui était appelé un zélote. Qui sait ce que c'est qu'un zélote? C'est quelqu'un de zélé, je vais le dire comme ça. C'est quelqu'un qui était zélé, qui était résistant contre les Romains et qui, avec une idée en tête, c'est faire des coups pour pouvoir renverser la domination romaine sur la Judée et sur Jérusalem en particulier. Il y a eu une révolte et les Romains ont voulu arrêter cette révolte. Ils ont envoyé toute une armée. Et quand ils sont arrivés, on ne sait pas pourquoi, et c'est là que Flavius Joseph dit quelque chose, c'est lui, et c'est à ce moment-là qu'il parle, et qu'il raconte, il dit que lorsque l'armée est arrivée vers Jérusalem, elle a eu un moment, on ne sait pas pourquoi, elle est retournée en arrière. Ce qui fait que les chrétiens, quand ils se sont souvenus de la parole de Jésus, quand vous verrez les armées venir, fuyez, ne restez pas dans la ville, que celui, etc., que fuyez dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville, restez en dehors de la guerre, parce que la désolation est proche. Et en 70, l'armée romaine est venue, et on ne sait pas pourquoi, personne n'a l'explication, sans aucune raison apparente, l'armée a fait demi-tour, histoire que les chrétiens qui se sont souvenus de cette parole, et ceux qui ont cru les chrétiens qui leur disaient, puissent sortir de la ville, et l'armée est revenue juste après, on ne sait encore pas pourquoi, elle est revenue à Jérusalem pour tuer et pour arrêter tous ceux qui se révoltaient contre l'Empire romain. C'est historique, ça, c'est fait, c'est pas la Bible qui le raconte, c'est historique, c'est des choses, on a des écrits de plein de personnes pour dire que c'est vraiment arrivé. Et pour le temple, on en revient au temple. Vous savez comment ça se fait que le temple a été détruit? Celui qui a donné l'ordre d'attaque, Titus, il avait dit « vous ne toucherez pas au temple, c'est un bâtiment trop beau pour qu'on y touche ». Et il y a un des gardes du temple, qui par mégarde, a allumé le feu au temple, sans faire exprès. Il a mis le feu au temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le toit qui était recouvert d'or du temple s'est mis à fondre sous l'effet de la chaleur. Et l'or est rentré dans les interstices des murs du temple. L'or a fondu du toit et rentré dans les murs du temple. Qu'est-ce qu'il a dit Titus et le général qui était avec? Ils ont dit, bon, on va détruire, on va enlever toutes les pierres pour pouvoir prendre l'or qui est au milieu. Le temple a commencé à être détruit, il ne devait pas être détruit, mais maintenant qu'il a commencé, ben autant qu'on finisse le travail. Et ils ont démantelé le temple, pierre par pierre, pour récupérer tout l'or qui avait fondu entre les pierres. Moi, j'y aurais pas pensé. Eh bien, ils l'ont fait pour que la prophétie de Dieu et de Jésus s'accomplisse à la lettre, pas pierre sur pierre. Et aujourd'hui, on ne retrouve pas le temple, il n'y a qu'un mur d'enceinte, les grands murs, il n'y a qu'une partie du mur d'enceinte qu'on soupçonne être d'origine, et on ne sait pas encore, c'est la tradition qui le dit. Concernant Jérusalem encore, il y a en 1917, plus près de nous, pour vous montrer que la parole de Dieu est vraie, il est écrit dans Ésaïe chapitre 31 verset 5, « Comme des oiseaux déploient leurs ailes sur leurs couvées, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem, il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée. » Du 9 au 11 décembre 1917, il s'est produit un des événements les plus marquants de l'histoire et les plus surprenants. Jérusalem, la ville la plus renommée du monde, a été délivrée de sa domination turque. Vous savez qu'en 1917, les Turcs, depuis des siècles, avaient la suprématie sur Jérusalem et occupaient Jérusalem. Et l'armée britannique, pour la première fois dans l'histoire du monde, une des premières fois, a utilisé des avions pour attaquer l'ennemi et pour délivrer Jérusalem. 1917, c'est pas vieux. Des avions. Et ce jour-là, cette photo, c'est une vraie photo, elle a été prise et c'est toute l'armée britannique qui vient à la rencontre de Jérusalem parce que Jérusalem a été délivrée. Vous savez comment elle a été délivrée? Eh bien parce que les avions sont venus et au bruit qu'ont fait les avions, tu peux montrer l'autre photo, on voit un avion, un de ces avions-là est arrivé et quand les Turcs ils ont vu les avions, ils ne savaient pas ce que c'était, ils n'avaient jamais entendu parler, comme nous on n'aurait pas connu à l'époque. Et quand ils ont vu les avions, ils ont dit c'est quoi ces gros oiseaux? Ils ont eu peur et ils sont partis. C'est la seule bataille de la Première Guerre mondiale qui a été remportée sans un seul coup de feu. seule bataille de toute la Première Guerre mondiale remportée sans un coup de feu, juste parce qu'ils ont eu peur de ces oiseaux aux ailes déployées qui venaient délivrer Jérusalem. Est-ce qu'ils avaient lu Ésaïe 31, verset 5, et se sont dit « ça y est, Dieu envoie son oiseau », je ne sais pas. Comme des oiseaux, il aurait pu dire comme un oiseau, comme des oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel étendra sa protection sur Jérusalem, il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Quelque chose d'incroyable. Jésus-Christ, on a parlé de Babylone, Tyr, Jérusalem et Jésus-Christ. L'argument béton face à tous ceux qui sont contradicteurs de la Bible, c'est comment ça se fait qu'autant de prophéties, des centaines de prophéties sur Jésus-Christ se sont toutes accomplies comme c'était marqué. Et ça, même les contradicteurs sont étonnés, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réfuter. La venue de Jésus sur la terre, celui qui dit aujourd'hui « Jésus n'a jamais existé », il est un peu décalé, parce que n'importe quel historien dans le monde entier, s'il a un petit peu d'études, s'il a au moins un petit diplôme, il sait que Jésus-Christ a existé. Et quand on regarde toutes les études qui ont été faites, toutes les choses qui ont été faites, tout le monde est étonné, même les athées sont étonnés de voir plus de 300 prophéties sur la naissance de Jésus, la venue de Jésus, du Messie, la manière dont il viendra, où il naîtra, comment ça se passera, par qui, etc., etc. La manière dont il est venu. Je ne vous parle pas de son ministère, je ne vous parle pas de sa résurrection, je ne vous parle pas de sa venue future. Là, on est presque à 800 prophéties. Dans la Bible, il y a plus de 2500 prophéties. Et sur les 2500 prophéties, il y en a plus de 2500 qui se sont déjà accomplies. Il en reste moins d'une centaine à s'accomplir. Vous imaginez? C'est exceptionnel. Celui qui dit que la Bible, c'est faux, mais il ne sait pas ce qu'il dit. On peut le dire, on a tous le droit de le dire. Mais vu de tout ce qu'on vient de voir, et vous pouvez le regarder, il n'y a pas que les chrétiens qui le disent. C'est des choses que j'ai regardées sur Wikipédia, sur tout ça, pour prendre les dates, etc. Je n'ai pas pris dans la Bible. Mais rien que ce que dit la Bible, les choses, les phrases, les mots employés, etc., tout s'accomplit. Sa naissance, née à Bethléem. Tiens. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Michée 5, verset 1. Ça a été écrit 750 ans avant Jésus-Christ. Jésus est né à Bethléem. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1, vous le vérifiez. Il est même dit que Hérode lui-même, le roi de Judée, il savait où devait naître Jésus. Il a fait tuer tous les bébés pour qu'il ne grandisse pas. Eh bien, manque de bol, il y a un ange qui a averti les parents pour qu'ils puissent protéger l'enfant. Deuxièmement, la crucifixion. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Cette prophétie, elle devait être accomplie pour que l'homme puisse être racheté. Ce que Ésaïe a prophétisé dans le chapitre 53, c'est la venue d'un sauveur. Et quand il dit « mais il était blessé pour nos péchés », littéralement il écrit « mais il était percé pour nos iniquités ». Qui aurait pu dire 750 ans avant Jésus-Christ comment devait mourir le Messie ? Percé. On ne perçait pas les gens, on les lapidait à l'époque. On ne les perçait pas les gens. Et le Messie devait être percé. Et on sait tous que sur la croix, il a été percé par des clous. Jésus-Christ est venu pas par hasard, mais parce qu'il fallait que les hommes soient sauvés, que quelqu'un paye pour leurs péchés. Dans Matthieu chapitre 27, verset 26, il dit « Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. » La résurrection. « Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. » Psaume 16, verset 10. Ça a été écrit 1050 ans avant Jésus-Christ. Et il y a eu plusieurs centaines de personnes, 500 personnes qui ont vu Jésus, 500 personnes à la fois qui ont vu Jésus ressuscité. Et dans 1 Corinthiens, donc environ 50 ou 60 ans après Jésus-Christ, après sa naissance, il est écrit que 500 personnes ont vu Jésus-Christ après sa résurrection et quelques personnes sont vivantes encore. Et ces écrits ont été confirmés par des athées, des historiens de l'époque, des antichrétiens de l'époque qui ont persécuté l'Église. Ils certifient que ces personnes existent bien dans leurs écrits qui sont extra-bibliques et ils disent que ces personnes le disent et qu'ils étaient là. Et ce qui étonne tous les contradicteurs aussi, par rapport à la véracité de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est comment ça se fait que des dizaines et des dizaines de personnes ont été prêtes à mourir plutôt que d'avouer que la résurrection de Jésus-Christ était un mensonge. Sous la torture, écartelés, sciés, brûlés, jetés dans les arènes, tout ce que vous voulez, comment ça se fait que ces personnes n'avouent pas que c'est un mensonge ? Des dizaines et des centaines de personnes qui disent croire ce qui a été dit, etc. Et d'avoir vérifié des miracles. Et on a les récits aujourd'hui de gens qui voyaient les chrétiens se faire manger dans les arènes et ils se convertissaient dans les arènes de voir dans la manière dont les chrétiens mouraient parce qu'ils n'avouaient pas que c'était un mensonge. C'est quand même fou ça. Vous mourirez, c'est comme ça qu'on dit, vous mourrez pour un mensonge, vous ? Moi non, hein. Si j'étais pas convaincu que c'était la vérité, je dirais bon c'est bon, j'avoue. Non, c'est pas vrai. Comment ça se fait qu'ils sont allés jusqu'à mourir, écartelés, sciés, etc. en disant non, je l'ai vu, il est ressuscité. Et ça, personne ne le comprend. La venue de Jésus-Christ, c'est la vérité. Les autres prophéties de la Bible qui se sont passées, qui se sont accomplies, on peut dire ce qu'on veut, ça s'est accompli comme Dieu l'avait prédit. Et ça s'accomplira encore, les quelques prophéties qui ne sont pas accomplies, elles s'accompliront, comme le Seigneur l'a dit. Tarde-t-il ? Est-ce que le Seigneur tarde ? Non. De Pierre, chapitre 3, verset 9, il dit « Non, il ne tarde pas, mais il veut qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. » Le désir de Dieu, c'est pourquoi Jésus n'est pas encore revenu, c'est pas parce qu'il a oublié le rendez-vous, qu'il est tombé dans un bouchon ou qu'il a oublié la logistique, hein ? C'est parce que Jésus, il veut que tous soient sauvés. Et si on est là cet après-midi, on peut rallumer la lumière peut-être ? Si on est là cet après-midi, je veux qu'on réalise que c'est un privilège, tous. Que lorsqu'on ouvre, à chaque fois qu'on ouvre la Bible, c'est pas un livre commun qu'on ouvre, mais que c'est la parole de Dieu, une parole vivante, qui était actuelle il y a 2000 ans, qui est actuelle encore aujourd'hui, et qui sera actuelle jusqu'au retour de Jésus-Christ et jusque dans l'éternité. La Bible n'est pas un livre passé, elle est un livre actuel aujourd'hui, et elle sera un livre aussi pour nous préparer à l'avenir. D'ailleurs, c'est ce que dira Dieu, il dira « Préparez-vous à la rencontre de Dieu ». C'est ce qui est écrit dans sa parole. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Si tout ce que Dieu avait prophétisé et qui est déjà passé est accompli, c'est accompli à la lettre, je crois que le retour de Jésus-Christ, le châtiment pour ceux qui refuseront de confesser leurs péchés, de demander pardon, toutes ces choses, mais aussi le paradis, toutes ces choses vont vraiment arriver. Et moi, je veux me tenir prêt. Si ce que Dieu dit est vrai, alors je veux être eh bien, prêt pour son retour, parce que Jésus revient bientôt. Et je vous l'ai déjà raconté, je vous le raconte encore une fois, j'étais avec des jeunes un soir, et on faisait une réunion de jeunes, c'était dans l'église à Draguignan où j'étais, et je parlais du retour de Jésus-Christ. Et je disais, vous savez, Jésus va revenir. Il est écrit dans 1 Thessalonicien, au son de la trompette, au signal d'un archange, en un clin d'œil, Jésus va revenir, il est écrit. Et tenez-vous prêts, parce que si vous ne demandez pas pardon pour vos péchés, la seule chose, imaginez-vous, que Dieu demande pour que nos péchés soient pardonnés, qu'on n'aille pas en enfer, qu'on aille au ciel. Demandez pardon pour vos péchés et suivez-moi. Choisissez-moi comme maître de votre vie, comme celui qui va la guider pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez en paix. La seule chose, demandez pardon et de tout son cœur aimez le Seigneur au point de vouloir savoir ce qu'il veut pour notre vie. Faire sa volonté, c'est pas cher payé quand même pour le salut. Et tout ça parce que quelqu'un a payé pour nous, Jésus-Christ qui est mort à la croix, mais qui est aussi ressuscité. Et je leur disais, mais vous réalisez ? Parce que vous êtes jeune, vous dites « Oh, je suis jeune, il faut que la vie se passe, il faut que jeunesse se passe, etc. » Parce que vous dites « Demain, un jour, ça sera trop tard. » Vous savez, un jour, il y aura la trompette qui va sonner. Je leur dis ça. Je dis « La trompette, elle va sonner, et Jésus va revenir. » Et les chrétiens seront enlevés, mais les autres, ils vont rester. Il va y avoir une tribulation, il va y avoir la guerre. Parce que sans les chrétiens, pour dire « Ne faites pas la guerre. » Sans les chrétiens, sans la parole de Dieu, sans l'esprit de Dieu, pour donner la paix, pour donner l'amour, la joie. Un monde sans paix, sans amour, sans joie, c'est quoi ? Un monde qui se détruit. Et après Jésus qui revient pour, eh bien, juger la terre. Il dit, oh, vous voulez pas être prêt ? Je dis, pourquoi vous attendriez ? Et je leur parlais, je disais, mais Jésus revient bientôt, ne loupez pas le rendez-vous. On ne sait pas quand il reviendra. C'est pour ça qu'il faut se tenir prêt maintenant, pas tarder, pas demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Pendant que je leur dis ça, moi j'avais réglé sur la sono un son de trompette, un réveil. Et à telle heure, je savais, hop, la trompette elle allait sonner. Et je leur dis, mais vous savez, c'est sérieux, il va y avoir une trompette qui va sonner, etc. Puis les jeunes, ah oui. Et dit, mais il faut vous tenir prêt, tout ça. Vous voulez aller en enfer ou au ciel, tout ça, c'est sérieux, demandez pardon pour vos péchés. Jésus a tout payé, pourquoi vous attendriez ? Et d'un coup, à l'heure donnée, Moi, je savais, la trompette, elle se met à sonner dans l'église. C'est peut-être pas sérieux, je le referai plus. Et la trompette, elle a sonné. Bleu, blanc, jaune, rouge, vous. Il y avait toutes les nationalités dans ça. Plus de racisme. Ils disaient, oh, Jésus revient. Puis comme ils n'ont pas été enlevés, ils ont compris ce que c'était. Et puis j'ai dit, mais voyez, là je vous ai pris par surprise. Mais en vrai, ça va se passer comme ça. Il est dit, on ne sait ni le jour ni l'heure. C'est pour ça, il faut être prêt aujourd'hui. Et puis après tout, est-ce que je sais si demain je vais vivre? Il peut arriver n'importe quoi. Combien de personnes sont parties, croyaient être en pleine santé, tout allait bien, et du jour au lendemain, leur vie s'est arrêtée. Parce que Dieu donne à chacun un temps imparti, pour qu'il se repente, pour qu'il demande pardon pour ses péchés, pour qu'il règle les choses sur la vie, l'histoire du péché sur la terre, et qu'il puisse avoir le ciel. Et je dis, non, ne tardez pas. On a encore un peu de temps. Et ce soir-là, on a prié. Plusieurs ont réfléchi. Hein? Et ils s'en souviennent encore aujourd'hui, quand je les revois à l'église, je dis, tu t'en souviens? Ah oui, je m'en souviens. Je ne vais pas le refaire, on ne va pas attendre ça. Mais vous comprenez, c'est sérieux. Si tout ce que Dieu a dit dans le passé, si autant de prophéties, des milliers de prophéties se sont accomplies, pourquoi les prochaines, les quelques dizaines qui restent, ne s'accompliraient pas? Alors, jouons pas avec la parole de Dieu. C'est un livre sérieux. Ouvrez-le, méditez-le, lisez, mettez en pratique les conseils qui sont donnés dans la parole de Dieu et vous verrez. Vous en goûterez les délices, les bénédictions qui découlent de toutes les promesses de Dieu. Et à celui qui prend la Bible au sérieux, qui dit « Ah, faut demander pardon pour être sauvé, tiens, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Ah, c'est sérieux ça? Seigneur, je veux me tenir prêt. » Et tous les jours, et à chaque heure, à chaque seconde, je ne veux pas me laisser embarquer dans un péché parce que je ne sais pas si Jésus ne va pas revenir pendant que je suis en train de le commettre. Je vais être trouvé prêt, pas être trouvé tombé ou tombant. Dans Acte 2, chapitre 4, il est dit « Convertissez-vous, repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser, hein, et vous recevrez le pardon de vos péchés et le don gratuit de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit aussi. » Qu'on puisse vraiment vivre ces choses. C'est gratuit. Pourquoi s'en passer? L'orgueil dit « Oh, moi j'ai besoin de personne, je m'en sors tout seul. » C'est cher risqué. La peur d'être trompé, n'ayez pas peur de Dieu. Nous, on force personne à quoi que ce soit. Chacun est libre. Par contre, on veut avertir. Et puis, la peur ou la honte, n'ayez pas honte. Devant Dieu, on est tous pareils, tous pécheurs. Mais tous, on est possible d'être pardonnés. Il est possible qu'on soit pardonné parce que Dieu nous aime à chacun. Il a donné son Fils unique car il a tant aimé le monde entier. Voilà. Blanc, noir, grand, petit, vieux, jeune, peu importe. Dieu nous aime. Et il attend qu'on lui demande pardon. On termine, on prie. On remercie le Seigneur pour ces choses. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, une lumière sur notre sentier, quelque chose qui peut nous guider. C'est vrai, une parole qui peut nous avertir des dangers de la vie, mais aussi, Seigneur, nous montrer quelles sont les choses que le monde ne connaît pas et que tu voudrais tellement qu'on vive avec toi. Cette paix, cette joie, cet amour qui déborde de ton cœur et que tu veux déverser dans nos vies comme dans un vase au travers de ton Saint-Esprit. S'il te plaît, Seigneur, tu vois ce qu'on a vu, cet exposé bien petit, Seigneur, s'il te plaît. Donne-nous non seulement de retenir peut-être ces choses, mais surtout de retenir que tu nous aimes de tout ton cœur et que tu veux tellement nous sauver de nos péchés, nous épargner l'enfer, nous offrir le ciel, simplement parce qu'on aura accepté que Jésus-Christ a payé pour nous, pour nos péchés, et qu'on accepte de le suivre aujourd'hui, lui qui est vivant et qui prie pour ceux qui se confient en lui. Merci Seigneur encore de faire de ces moments qu'on partage, des réunions qu'on partage, des moments vivants non pas parce qu'il y aura de l'activité, du rire, mais surtout vivants parce que ton esprit sera à l'œuvre. Seigneur, que dans chacune de nos vies, en dehors même de ces murs, l'Église continue de vivre dans notre personne même. Que nous soyons l'Église de Jésus-Christ. Oui, les pierres étaient impressionnantes, aujourd'hui le temple est détruit, mais tu as fait de nous des pierres vivantes. Nous voulons être vraiment vivants pour toi. Ne pas vivre pour les choses du monde, mais vivre pour celui qui nous a tant aimés et qui nous sauve encore aujourd'hui. Merci Seigneur de pardonner le pécheur, quand bien même il est déjà demandé autrefois que chacun d'entre nous, si nous avons péché, nous puissions régler l'affaire maintenant, car un jour il sera trop tard. Tu reviens bientôt, tu parles d'une nouvelle ville, de nouveaux cieux, nouvelle terre que tu vas offrir à tous ceux qui auront accepté de croire en ta parole. Oui, nous voulons le faire, nous voulons faire partie de cela, Seigneur, et nous acceptons par la foi de te faire confiance et de faire confiance à ta parole. Oui, tu dis de ne pas mentir, tu dis de ne pas voler, eh bien nous voulons le faire. Tu dis de ne pas douter, nous voulons croire. Et si quelqu'un doutait cet après-midi, viens au secours de son incrédulité. Je sais qu'en te priant, il obtiendra la réponse à sa prière et l'exaucement s'il prie de cette manière. Merci encore pour les nouveaux peut-être qui nous ont rejoints, peut-être c'était des choses un peu étonnantes qu'ils ont vues. Seigneur, que tu te révèles personnellement à eux. Je crois que tu es vivant. Qui mieux que toi peut parler de toi-même? Alors par ton esprit, parle à leur cœur et montre-leur combien ils sont importants à tes yeux. Et que ton nom, que ta gloire, que ta renommée s'accroissent et soient bénis en toutes choses. Amen.